9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour. Bonjour, bienvenue dans C'est arrivé cette semaine. Je vais recevoir Yael qui vient de sortir un nouvel album, L'ère du Verseau. Georges Vigarello pour son histoire de la fatigue du Moyen-Âge à nos jours. Il va nous expliquer que la notion de fatigue évolue avec les époques. On n'est pas fatigué de la même façon, ni pour les mêmes raisons, au XVIIe siècle et au XXIe. Et pour comprendre pourquoi un homme atteint d'une maladie incurable en est réduit à cesser de s'alimenter, de s'hydrater tout seul et à filmer son agonie sur Internet, j'ai invité Véronique Fournier, qui était encore il y a quelques jours la présidente du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Bonjour Véronique Fournier, vous êtes médecin, c'est vous qui avez créé le Centre d'éthique clinique et de l'assistance publique et vous avez été jusqu'au 1er septembre la présidente du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. On met votre bonnette toute neuve, la bonnette du micro, parce qu'on essaye de ne pas utiliser les mêmes, évidemment, à Europe 1. Vous avez entendu Alain Coq, est-ce que il a commencé par demander à Emmanuel Macron d'autoriser un médecin à lui donner un barbiturique. Est-ce que sa demande vous a paru légitime?
Qu'Alain Coq souhaite à un moment donné considérer, ou qu'il considère plutôt, parce que je ne pense pas qu'on souhaite ce genre de choses, mais qu'il dise à un moment donné, la vie que je dois continuer de vivre est insupportable et qu'il souhaite l'interrompre, est un droit absolu pour moi de tout citoyen arrivé à cet endroit-là de sa souffrance et de sa maladie. C'est le droit à la non-obstination déraisonnable. Ce monsieur est maintenu en vie, d'après ce que je comprends, parce que je ne le connais pas, je ne l'ai pas rencontré moi-même. Mais de ce qu'on a tous compris, je crois, par les médias, il est maintenu en vie par beaucoup d'assistance, beaucoup de sondes, beaucoup de tuyaux, une alimentation artificielle, soit par sondes, soit par des substituts alimentaires. Et donc, il est maintenu en vie. Il est dans un grand état de dépendance et de déclin. Et qu'à un moment donné, ils disent « ça suffit », eh bien, je trouve qu'on ne peut que le respecter et l'accompagner. Et je pense que ce n'est pas possible que personne ne puisse faire cela. Maintenant, ils demandent une injection de barbiturique, et ça, effectivement, c'est aujourd'hui illégal dans ces situations-là. En revanche, la loi Claeys-Leonetti a autorisé la sédation profonde et continue jusqu'au décès, justement pour pouvoir accompagner ces personnes, lorsqu'elles arrêtent toute médecine et toute assistance et pour qu'elles n'en souffrent pas.
Alors effectivement, la première réponse que lui a donnée Emmanuel Macron, c'est que lui-même, en tant que président de la République, n'est pas au-dessus des lois et qu'il ne pouvait accéder à sa demande. Une aide active à mourir n'est pas permise dans notre pays. On peut nous laisser mourir, mais on ne peut pas nous aider à mourir, c'est cela ?
C'est en tout cas comme cela qu'avait été tracée la frontière au moment de la première loi Leonetti.
En 2005, donc.
En 2005, la loi Leonetti, la première loi Leonetti, qui a beaucoup marqué les esprits et beaucoup changé les choses en France, a vraiment combattu l'obstination déraisonnable. Elle a dit aux médecins, vous n'avez pas le droit de faire de l'obstination déraisonnable et vous avez le devoir de l'arrêter quand elle existe. Et elle a dit aux patients, vous avez le droit d'arrêter tout traitement lorsque vous considérez qu'ils sont déraisonnables. C'est exactement ce que fait Alain Coq. Il dit, aujourd'hui, je suis l'objet d'un acharnement thérapeutique, d'une obstination déraisonnable. Et je pense que ça suffit comme ça. Personne d'autre que lui ne peut savoir quand c'est l'obstination déraisonnable. C'est lui qui doit tenir le curseur. C'est ça que dit la loi Leonetti en 2005. Et en même temps, elle ne permet pas qu'effectivement, on accepte à ce moment-là que ce monsieur va mourir dans les jours qui viennent et qu'on l'accompagne comme il le souhaite, lui, au plus près de ce que souhaite cet homme-là.
Lui, ce qu'il souhaite, c'est que ça aille vite, au fond. Il l'a dit, d'ailleurs, dans son message sur Facebook hier soir. Il a dit que, ça, vu son état général, ça ne devrait pas durer longtemps. À partir du moment où il cesse de s'hydrater, où il cesse de s'alimenter, où il cesse de prendre son traitement, sauf ses antidouleurs, vous pensez que, malheureusement, ça va prendre combien de temps, vous qui êtes médecin ?
Je ne peux pas dire parce que je ne connais pas cet homme, je ne l'ai pas rencontré. Ça peut prendre quelques jours, effectivement, et peut-être plus que quelques jours. Voilà, moi je pense que ça n'a pas tellement d'importance de savoir si c'est 2 jours ou 10 jours. Et ce qui est important, c'est de l'accompagner dans toute la compassion solidaire qu'on peut lui apporter en tant que société. Cet accompagnement en France aujourd'hui, c'est ce que j'avais compris de la loi Claeys-Leonetti de 2016, est possible avec les sédations profondes et continues jusqu'au décès. C'est-à-dire que je connais plein de médecins, y compris de médecins de soins palliatifs, qui auraient dit à M. Koch, moi je suis prêt à vous accompagner, c'est-à-dire à être chez vous et à mettre en place une sédation profonde et continue jusqu'au décès, de façon à ce que vous ne souffriez pas du fait d'avoir décidé de tout arrêter la médecine qui, aujourd'hui, vous maintient en vie. Malheureusement, il y a un grand nombre de gens qui ont compris la loi Claeys-Leonetti différemment et qui disent, s'il ne va pas mourir dans les 48 heures, alors je ne fais pas. Et ça, j'ai pu l'observer à la tête du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Et si c'est le cas, et si, effectivement, il n'y a pas d'égalité de ce point de vue-là, de la compréhension de la loi, qu'elle est ambiguë, eh bien oui, il faut la clarifier, il faut l'expliciter davantage.
Alors effectivement, on dit que la loi actuelle, donc la loi Leonetti-Claeys, autorise la sédation profonde terminale, mais uniquement quand la mort approche. Ça n'est pas le cas d'Alain Koch. S'il n'arrêtait pas de s'hydrater ou de s'alimenter, il pourrait vivre encore. Il ne sait pas combien de temps, mais il pourrait vivre encore. Et je rappelle qu'il a 57 ans. On va l'écouter d'ailleurs, Alain Koch. C'est dans la communication qu'il a faite hier sur Facebook, puisqu'il filme son agonie, a-t-il dit, et il le fait pour montrer aux Français, je le cite, ce qu'est l'agonie obligée de la loi Leonetti. On va l'écouter à la fin de son message.
Le chemin de ma délivrance commence et croyez-moi, j'en suis heureux. Voilà, je dis au revoir et ainsi va la vie.
Véronique Fournier, il y a donc une ambiguïté. Tout le monde ne la comprend pas de la même manière, cette loi. Et au fond, à partir du moment où lui-même cesse de s'hydrater, de s'alimenter, un médecin pourrait l'aider.
Oui, je voudrais juste revenir avant sur ce que vous avez dit. La loi Claeys-Leonetti donne l'accès à la sédation profonde et continue jusqu'au décès dans 3 situations. 1, quand le patient va mourir bientôt, dans les heures ou dans les jours qui viennent, et qu'il est vraiment à la phase terminale, et qu'il souffre, et qu'il veut que ça s'arrête, la souffrance. 2, et c'est le cas d'Alain Koch, quand il est en situation d'être maintenu par des traitements vitaux, par la médecine. Et s'il décide d'arrêter ses traitements vitaux, alors il a le droit, pour ne pas souffrir de l'arrêt de ses traitements vitaux, et parce qu'on sait qu'il va mourir, il a le droit de demander aussi une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Après, l'interprétation de la loi, notamment par la Haute Autorité de Santé, a consisté à savoir combien de temps allait durer ce temps sans traitement avant que le patient meure. Et les gens se bagarrent beaucoup pour savoir si il faut que ce soit 10 jours ou 2 jours. Quand un patient, par exemple, refuse une dialyse, il va mourir de cet arrêt de dialyse. On ne sait pas s'il va en mourir dans 2 jours ou dans 8 jours. Est-ce qu'il rentre dans la loi Claeys-Leonetti ou est-ce qu'il ne rentre pas? C'est ça que je veux dire. Donc il y a des interprétations possibles de la loi sur le terrain, avec des gens, des médecins notamment, et des soignants, des équipes soignantes, qui sont farouchement braqués sur le délai, et qui disent, s'il ne doit pas mourir dans les 2 jours, alors je ne fais pas de sédation profonde et continue jusqu'au décès, et d'autres, au contraire, qui la comprennent de façon, dans son principe, si vous voulez, dans son esprit. Et pour moi, l'esprit de la loi, c'était ça. Quand quelqu'un a tellement souffert qu'à un moment donné, il dit « je ne veux pas poursuivre cette vie-là », alors la moindre des choses, c'est qu'effectivement, on le soutienne dans sa démarche et qu'on l'accompagne et qu'il n'en souffre pas. Il me semble que c'est vraiment ce qu'a voulu le législateur.
On se retrouve dans un instant, Véronique Fournier. On continue de parler de ce cas dramatique.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Alain Koch a donc décidé de cesser de s'alimenter, de cesser de s'hydrater, de cesser de prendre son traitement, sauf ses antidouleurs, et de se laisser mourir. Mais il va le faire en direct sur Facebook afin de montrer aux Français, dit-il, ce qu'est l'agonie obligée de la loi Leonetti. Je reçois Véronique Fournier, qui est médecin et qui a été jusqu'au 1er septembre présidente du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Quelle est la différence entre la sédation profonde et les barbituriques? C'est ce que demande Alain Koch. Il demandait au président de la République d'autoriser un médecin à lui prescrire un barbiturique. Alors de quoi s'agit-il?
le barbiturique, c'est effectivement un traitement qui est létal, à forte dose. C'est-à-dire qu'il entraîne la mort en direct. C'est le médicament qu'on utilise, par exemple, en Belgique, lorsqu'on fait une euthanasie active, ou en Suisse, quand on autorise les patients à accéder au suicide assisté. Ce n'est pas la même chose que les médicaments qui sont utilisés pour la sédation profonde et continue jusqu'au décès. À ce moment-là, on donne un sédatif puissant et on endort le patient. Mais on ne le tue pas au bout de la seringue. Ce sont deux médicaments différents et ce sont deux gestes différents, deux intentions différentes. Dans un cas, on provoque directement la mort du patient avec le barbiturique et dans l'autre cas, on endort profondément le patient, quitte à ce que cet endormissement raccourcisse la vie et précipite la mort du patient. Mais on ne donne pas un médicament qui tue létal.
Vous pensez que vous-même, en tant que médecin, pour vous, il y a une différence considérable dans les deux gestes?
Effectivement, c'est très important. Je vous remercie de vous mettre à la place du médecin ou du soignant en général, parce que ça ne fait pas le même effet. Pour autant, il y a des médecins en Belgique qui pratiquent l'euthanasie létale avec le barbiturique et qui le font avec beaucoup d'humanité et sans que ça les mette en malaise sur le plan éthique. Mais c'est vrai que le geste n'est pas le même exactement.
La première loi Leonetti de 2005, elle avait permis aux médecins d'arrêter les traitements sans risquer d'être poursuivis par la justice. Mais ils ne le décidaient pas seuls. S'ils allaient arrêter le traitement de quelqu'un, s'ils allaient le plonger dans cette sédation profonde et terminale.
Alors, vous avez raison. D'abord, la première loi Leonetti ne permettait pas le plongeon dans la sédation profonde
et terminale. Oui, c'est vrai, pardonnez-moi.
Il permettait, par contre, d'arrêter des traitements qui maintenaient en vie les patients. Et la grande avancée de la loi Leonetti, presque indépendamment de celle que vous venez de citer, c'est d'avoir exigé que ces décisions ne se prennent qu'en collégialité. C'est-à-dire que les équipes soignantes prennent le temps de se poser et de discuter ensemble de ce qu'elles étaient en train de faire en arrêtant des traitements pour un patient. C'est la grande avancée de la loi Leonetti, celle qui a été vraiment saluée par tous les soignants.
Et la loi de 2016, c'est elle qui permet la sédation profonde?
La loi de 2016, elle a renvoyé le curseur un peu du côté du droit des patients. C'est-à-dire qu'elle s'est moins préoccupée des procédures de décision médicale et elle a remis la décision d'arrêter les traitements et d'être accompagnée dans la main du patient. Elle a dit que c'est le patient qui décide de quand est l'obstination déraisonnable, ce n'est pas le médecin. C'est le patient qui dit « là, je n'en peux plus, stop ». Quand il peut le dire, quand il ne peut pas le dire, à ce moment-là, ça revient au médecin et à l'équipe soignante de décider s'il y a, oui ou non, obstination déraisonnable. La voix du patient peut alors être portée par sa personne de confiance ou sa famille.
Ce qui manque, on le voit bien, c'est ce que demande Alain Coq, c'est ce qu'il demandait à Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'à un moment, si on dit stop, qu'on nous aide à mourir.
Exactement, mais une fois de plus, on peut vous aider à mourir de deux façons. On peut le faire soit en vous faisant mourir directement avec une injection de barbiturique, c'est ce que permet l'euthanasie quand elle est légale.
Et ce qui n'est pas le cas en France.
Ce qui n'est pas le cas en France. Ou on peut le faire avec une sédation profonde et continue jusqu'au décès, ce qui n'est pas la même chose. Alain Coq, j'ai vu quelque part aussi, disait « je veux être conscient jusqu'au bout ». Eh bien, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, ça vous plonge dans l'inconscience. Peut-être que c'est ça qu'il ne voulait pas.
Et cette sédation profonde et continue, elle est douloureuse?
Elle n'est pas douloureuse a priori, puisqu'on donne des sédatifs puissants d'une part et des antalgiques, c'est-à-dire des antidouleurs, notamment sous forme de morphine. Donc, a priori, elle n'est pas douloureuse. La question, c'est qu'elle n'est pas forcément facile à rendre profonde et continue jusqu'au décès. C'est-à-dire que certains patients peuvent se réveiller de temps en temps ou à donner l'impression qu'ils se réveillent. Donc, même si ce n'est pas douloureux, ce n'est pas forcément facile d'accompagner ces patients et de rester à leur chevet, notamment pour les proches quand ils les voient se réveiller.
Alain Coq est un militant de longue date, je crois, de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. C'est ce qui explique sans doute cette volonté qu'il a de donner à son agonie une exposition médiatique. Est-ce que vous le comprenez, ça aussi, qu'il veuille que tout cela se passe sur Facebook?
Écoutez, vraiment, toutes les avancées dans ces domaines-là ont toujours été faites sous le coup de situations singulières, que ce soit en France ou à l'étranger. Et donc, voilà, je comprends très bien que quand on a été militant comme Alain Coq pendant des années, eh bien, on veuille utiliser sa force de militance à ce dernier combat.
Et l'affaire Vincent Lambert, ça a changé quoi ?
L'affaire Vincent Lambert a été, j'en garde un souvenir assez dramatique pour tout le monde. Pour lui d'abord, et pour tous ceux qui l'ont accompagné, que ce soit ses proches et que ce soit les médecins. Donc, je pense que son intérêt essentiel a été, finalement, que la justice se saisisse de ça et que la justice impose les conditions qu'avait adoptées le législateur dans sa loi. Mais, pour le reste, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, elle a juste dit, oui, l'obstination déraisonnable était constituée et voilà les conditions pour lesquelles elle était constituée. Oui, Vincent Lambert avait dit que il voulait, dans ce cas-là, ne pas survivre et qu'il voulait que ça s'arrête. Voilà, elle a éclairé les principes qui étaient contenus dans la loi. C'est ça l'affaire Vincent Lambert.
Qu'est-ce qui s'oppose, à votre avis, Véronique Fournier, aujourd'hui, à ce que l'on autorise le fait de donner, d'aider véritablement un patient à mourir, c'est-à-dire qu'on lui donne la piqûre de barbiturique que réclame Alain Coq. Qu'est-ce qu'on redoute ? On redoute les abus, on redoute les héritiers, on redoute les soignants qui pourraient s'y opposer, qui ne veulent pas, ou qui, au contraire, on pourrait imaginer aussi qu'ils veuillent se débarrasser de... Qu'est-ce qui nous fait peur ? À ce moment-là.
D'abord, il y a plein de gens qui n'ont pas peur. Plein de pays étrangers dans lesquels il n'y a pas eu cette peur. Ça, c'est une chose intéressante à noter. Donc, en France, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Ou alors, simplement, il y a on n'a pas avancé assez vite sur cette question par rapport aux autres et qu'on va avancer un de ces jours.
Vous dites avancer, mais d'autres diraient, mais c'est horrible, reculer. C'est reculer,
absolument.
C'est une régression.
Absolument, vous avez raison de me reprendre. C'est ma conviction et je ne demande à personne de la partager, qu'il faut aller dans ce sens-là et il faut avancer. Je pense que le blocage essentiel, il provient du corps soignant et des médecins. D'un certain nombre d'entre eux, d'un grand nombre d'entre eux, encore, ça a été le cas dans tous les pays qui ont légiféré. C'était pareil en Belgique, c'était pareil au Canada. Et pourtant, la population, parce qu'elle le voulait, a été soutenu par le politique et la loi a pu être adoptée. Et il me semble que les médecins ne veulent pas être les anges de la mort, quelque chose comme ça, si vous voulez. Alors que moi, je pense que le job du médecin, c'est vraiment d'accompagner son patient, y compris dans cette extrémité-là, quand il le demande. Parce qu'une fois de plus, quelqu'un qui a vécu et souffert une maladie aussi profonde pendant aussi longtemps qu'Alain Coq, personne ne peut se mettre à sa place et savoir ce qui est supportable et pas supportable. Et moi, mon devoir de médecin, c'est de l'accompagner et d'être au plus près de ce qu'il demande. Évidemment, dans le respect de la loi, aujourd'hui, la loi ne l'autorise pas, mais il y a d'autres façons de l'accompagner, me semble-t-il.
Merci Véronique Fournier. Dans un instant, on retrouve Yael.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Et voici Yael qui sort son 4e album, L'ère du Verseau. Yael, ça n'est pas votre nom. Hein.
C'est mon surnom, mais mon vrai prénom, c'est Julie, oui.
C'est aussi le nom de votre groupe, Yael, au fond.
Oui.
Ça voulait dire You Enjoy Life, hein, au départ.
Oui, ça voulait dire ça, et ça veut toujours dire ça. Hein. Moi, j'espère que je vais encore enjoyer la life longtemps.
Pendant un certain temps. C'est marrant comme les chanteurs et les chanteuses, d'ailleurs, utilisent des pseudos systématiquement, comme s'ils voulaient se dissocier du personnage qu'ils vont incarner sur scène ou dans leur disque.
Mais c'est peut-être un moyen de se cacher un petit peu, hein, quelque part, de pas trop en dire de soi, ou en tout cas de pouvoir dire des choses qu'on dirait pas forcément en tant que soi-même, mais avec un pseudo, je sais pas. En tout cas, pour moi, ça m'a certainement aidé à dire des choses que j'aurais peut-être pas dites dans ma vraie vie.
Quand il y a beaucoup de chanteurs, on a l'impression que c'est une classe de maternelle, tellement ils ont des surnoms, des pseudos, des diminutifs, parfois qui frisent l'infantilisme.
Après, moi, ça ne me dérange pas parce que ça, je trouve que c'est... Quand on choisit justement un nom comme ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière, donc il faut creuser.
On écoute tout de suite un extrait de ce 4e album. Ça s'intitule « Émancipance ».
Émancipance, ce que tu penses. Émancipance, ce que tu danses. Émancipance, ce que tu penses. Émancipance, ce
C'est toujours difficile de faire danser en chantant en français ?
Je ne crois pas. J'ai l'impression qu'on y arrive depuis quelques années parce qu'on a ça en nous. Enfin, on a vraiment ce truc de danse. On a envie de faire danser les gens. Mais on a aussi envie de leur dire des choses auxquelles ils peuvent ne pas faire attention. Je veux dire, au moment où ils l'entendent dans un club ou je ne sais pas quoi. Mais on peut écouter à différents moments des chansons et qu'elles nous touchent différemment. Ouais.
Yael, vous avez beaucoup tourné à l'étranger, surtout aux États-Unis, en Amérique latine, au Japon, à Hong Kong, en Australie. Finalement, c'est en France qu'on vous connaît le moins.
C'est vrai qu'on a toujours un peu eu cette carrière à l'étranger. Dès le départ, on est vite parti à l'étranger, nous. Et en fait, moi, ça me convient hein, d'aller faire beaucoup de dates ailleurs parce que j'ai découvert plein de pays comme ça. J'avais jamais pris l'avion. Voilà, je l'ai pris plein de fois depuis. Et puis, je sais pas, c'est chouette de pouvoir exporter justement sa langue, sa musique à travers les continents comme ça.
Vous vous exportez tout en chantant en français. Hein. Vous n'avez jamais chanté en anglais.
Non,
c'est quand même important parce qu'il y a beaucoup de groupes français qui s'exportent, mais en chantant en anglais la plupart du temps.
Oui, c'est vrai. Non, nous, on chante que en français et on est toujours un peu surpris hein, de l'accueil qu'on a ailleurs. Mais je crois que les gens sont de plus en plus curieux. En tout cas, nous, c'est vrai qu'on écoute beaucoup de musique anglophone. En même temps, on ne comprend pas toujours les paroles et ça n'empêche pas d'aimer les mélodies, d'aimer les rythmiques, etc. Donc, je pense que finalement, pour eux, c'est pareil.
Il y a sur cet album une chanson qui s'intitule « Je t'aime encore », qui s'adresse à la France. « Je te tourne autour, mais tu ne me vois pas ». C'est une chanson un peu de dépit amoureux. C'est un peu votre lettre à France.
Oui, c'est un peu ma lettre à France. On avait envie de raconter. Enfin, c'est pas une chanson d'amertume, c'est plutôt un constat de se dire « En fait, c'est vrai que c'est comme ça entre nous depuis toutes ces années. » On n'arrive pas trop à percer le secret. Pourquoi avec la France, ça marche un tout petit peu moins bien? Est-ce qu'on fait des choses un peu trop bizarres? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas très grave. Parce qu'on a quand même une super fanbase en France. Et puis, on les aime beaucoup. On est toujours très contents de les retrouver.
Alors, est-ce que vous faites des choses bizarres? On va écouter « Je veux un chien », un extrait. C'est un peu la recherche du prince charmant, mais version Yael.
Je veux un chien.
Yael, ce sont toujours les femmes qui ont chanté les chansons les plus sexy, je trouve. Mais là, on est passé de « Déshabiller moi, je veux un chien ».
Oui, c'est une chanson un petit peu crue, mais qu'on peut écouter de manière différente. C'est autant « Je veux un partenaire avec qui il y a une fusion et avec qui il puisse y avoir aussi une relation de dominant-dominé ». Mais c'est aussi une chanson qui dit dans les rapports qu'on peut avoir avec un animal, par exemple, cette fidélité, ce lien un peu étrange, eh bien, j'ai l'impression qu'on peut avoir cette quête d'un compagnon un peu idéal avec qui on est prêt à faire un long chemin.
Est-ce qu'à l'étranger, est-ce qu'ils ont la curiosité de traduire les paroles comme nous le faisons, nous, pour les chansons anglo-saxonnes ?
Oui, beaucoup. On parle souvent de ça. Il y a aussi eu beaucoup de retours de gens qui ont commencé à apprendre le français avec mes chansons. J'ai des retours de professeurs aux États-Unis, par exemple, qui font étudier nos textes à leurs élèves. Donc, c'est plutôt rigolo.
Et puis il y a Karaté, on commence à l'entendre pas mal, cette chanson Karaté. On en passe tout de suite un extrait.
comment t'es sur le tatami. Quand t'es pas caché, quand t'as pas d'amis. Ton kimono est un pyjama. 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 Comment t'es sur le tatami. Quand t'es pas caché, quand t'as pas d'amis. Ton kimono est un pyjama. 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 Ton kimono est un pyjama.
Yael, on l'a compris, 80% de vos concerts se donnent à l'étranger. Pourtant, vous serez à La Cigale, normalement, le 29 octobre, et c'est complet. Vous serez également le 30 octobre à La Cigale, le 22 à Strasbourg, Nantes le 4 novembre, le 6 à Tourcoing. Comment ça va se passer? Vous allez avoir un public masqué?
Ben, on ne sait pas trop encore comment ça va se passer, en fait. On ne sait pas si on aura le droit de faire des concerts debout où les gens sont un peu touche-touche. Donc, voilà, on espère que ça va se décanter d'ici là et qu'on trouvera peut-être des solutions, en tout cas pour pouvoir quand même donner des concerts, même si on ne peut pas le faire dans les conditions qu'on connaît normalement.
Le problème du masque, c'est que vous ne saurez pas s'ils sont contents, s'ils sourient.
Non, mais peut-être que quand même, ils peuvent donner de la voix pour montrer qu'ils sont contents. Et alors là, ça m'ira quand même.
Est-ce qu'on applaudit encore dans les concerts aujourd'hui?
Ah oui,
on applaudit à la fin de la chanson parce que j'ai l'impression qu'on danse tellement, on saute tellement, enfin du moins quand on en a le droit,
oui.
Qu'on n'a plus besoin d'applaudir.
Non, il y a quand même les gens applaudissent, crient, sifflent, enfin ils communiquent quand même beaucoup leur joie à la fin des morceaux.
Merci Yael, votre quatrième album, donc L'Air du Verseau, vient de sortir.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Georges Vigarello, vous êtes historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous publiez au Seuil « Histoire de la fatigue, du Moyen-Âge à nos jours ». C'est formidable, on vit une époque formidable, je trouve, pour les historiens. Autrefois, on était condamné à faire une histoire de Napoléon, à une histoire de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on peut faire une histoire de la fatigue ou une histoire de la virilité que vous aviez fait, oui, avec Alain Corbin et Jean-Jacques Courtine. Le champ des possibles a considérablement augmenté.
Écoutez, c'est pas seulement l'époque. Bien sûr, l'époque joue, dans la mesure où elle nous renvoie plus, sans doute, de sensibilité qu'auparavant, mais c'est aussi les projets des historiens qui ont bougé. Et je pense que c'est lié, entre autres, au fait que les sciences humaines se sont diversifiées, étendues, la psychologie nous donne plus d'objets à observer, la sociologie aussi, l'anthropologie également. Et cet ensemble de repères savants nous permet de poser d'autres questions à l'histoire que celles que nous posions jusque-là. Donc, par exemple, la sensibilité, ça devient un objet historique.
Dans votre histoire de la fatigue, vous nous apprenez qu'au Moyen-Âge, seuls les combattants avaient le droit d'être fatigués, les voyageurs aussi. Mais les paysans, en revanche, il n'en était pas question. Hein.
Oui, absolument. Non, mais c'est parce que cette histoire, j'ai tenté de la faire en montrant quels sont les objets qui sont importants, qui sont mis en valeur selon les époques. Or, c'est vrai qu'au Moyen-Âge, la mise en valeur, c'est les combattants, ceux qui défendent la cité. Ce sont éventuellement aussi les marchands, ceux qui peuvent faire circuler des objets, vendre. Ce sont les religieux qui se répandent en fatigue pour racheter les fautes des autres. C'est moins les travailleurs. Les travailleurs, ce sont des personnes viles, ce sont des personnes relativement invisibles, ce sont des personnes sans valeur, si vous voulez. Or, ce qui est intéressant, c'est de comparer les époques, justement, en montrant quelles sont les valeurs et comment les valeurs bougent-elles. Et si on change d'époque, pour prendre simplement l'exemple suivant, si on prend le XVIIe siècle, on voit à ce moment-là que monte en importance les administrateurs, les politiques, et donc du coup
les gens
on
assis,
voit les gens assis, on voit apparaître de nouvelles fatigues, les fatigues de la cour par exemple, voyez, ou les fatigues des plumitifs, les fatigues des avocats par exemple. La Bruyère dit un avocat, il faut qu'il apparaisse très fatigué dans son carrosse, il faut pas qu'il regarde, il faut qu'il soit plongé dans ses propres documents, etc. Donc on voit comment, selon les époques, il y a des figures qui s'imposent et qui deviennent finalement les figures sur lesquelles la fatigue est centrée.
Mais par exemple, au XVIe et au XVIIe siècle, les villes grandissent et avec les villes, le bruit grandit.
Oui, alors c'est justement, ça c'est une donnée qui me paraît très importante. Quelles sont, selon les époques, les perturbations qui sont prises en compte? Alors la ville, elle grandit pour plusieurs raisons. Elle grandit parce qu'il y a un exode, qui est lié à la complexité que représente la gestion rurale. Donc tout un ensemble de personnes qui pouvaient glaner en bordure des grandes propriétés, ces glaneurs disparaissent, ils se retrouvent dans les villes, ils accumulent. Bon. Et puis vous avez aussi, dans l'importance que acquiert la ville, le fait que commence à figurer dans la ville tous les gens de la robe, c'est-à-dire les avocats, les notaires, qui auparavant étaient centrés uniquement sur le château du seigneur. Vous voyez, donc la ville devient un lieu, disons le mot, d'encombrement. À ce moment-là, c'est un facteur de fatigue. La façon dont Boileau parle de la ville, c'est une façon qui va accentuer le fait que le bruit est insupportable. Ça m'empêche de dormir, c'est pas possible, vous voyez.
Les femmes sont réputées se fatiguer plus vite que les hommes. J'ai l'impression que ça n'a pas d'époque.
Dans une certaine mesure, mais en même temps, la représentation que l'on se fait des corps change avec le temps. Alors, pour prendre deux exemples très vite, la représentation traditionnelle, c'est celle d'un corps qui est fait de liquide, qui est fait d'humeur, etc. Et on considère que l'humeur des femmes, c'est une humeur plus molle, en quelque sorte, plus flasque. Elles sont flegmatiques, vous voyez, elles sont... Et du coup, ça donne une couleur blanche, d'ailleurs. Et puis, lorsque les repères qui expliquent le fonctionnement du corps changent, et je pense entre autres au XVIIIe siècle, où davantage priment les nerfs, où davantage priment les fibres, les tensions, etc. Alors, les femmes, elles ont une double caractéristique, qui évidemment sont négatives, vu la misogynie de l'époque, si vous voulez. D'un côté, elles sont plus tendues et plus nerveuses, et de notre côté, elles sont également plus sensibles et donc plus interpellées, plus choquées, et du coup, elles deviennent plus flasques, figurez-vous.
Georges Vigarello, on se retrouve dans un instant, juste après une pause.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Toujours avec Georges Vigarello et son histoire de la fatigue, au 19e siècle, il y a une nouvelle fatigue, c'est celle des ouvriers. Là, plus rien à voir avec la fatigue des combattants, plus rien à voir avec la fatigue des bureaucrates, ni avec celle des paysans.
Des bourgeois, oui, ou des bourgeois.
Ouais, là, c'est complètement nouveau. Là.
Ah, c'est complètement nouveau parce que, en fait, prime tout simplement l'exigence de l'industrialisation. C'est-à-dire qu'il faut que la production puisse être la plus efficace possible. Et ça entraîne, d'une part, une sorte de perturbation très grave concernant les corps des travailleurs. Les heures au travail sont extrêmement lourdes. Les modes de travail sont effectivement durs aussi. L'usine, c'est un lieu, je dirais, de dépérissement. Et par là même, l'observation sur ce type de dépérissement et de fatigue croît. Et vous avez même je trouve ça très important, vous avez même des décisions juridiques. Par exemple, l'interdiction du travail des enfants, la grande loi de 1841, qui renvoie à la perception de la fatigue des enfants, jugée dès lors intolérable. Donc ça donne d'un côté des corps qui sont plus atteints qu'auparavant, et d'un autre côté, bien que les corps paysans n'étaient quand même pas très brillants, ne l'oublions pas, et d'un autre côté, ça renvoie à des observations qui sont de plus en plus exigeantes et qui font exister des fatigues qui apparaissent comme nouvelles, en quelque sorte.
Ce qui est très intéressant dans votre livre, Georges Vigarello, c'est qu'on voit bien que le vocabulaire pour décrire la fatigue évolue lui aussi. Hein. Du temps des humeurs, au Moyen-Âge, quand on était fatigué, on avait le corps qui se desséchait.
Exactement.
Il n'y avait plus de liquide, justement.
Exact, oui.
Ensuite, on va parler pour les avocats, pour les bureaucrates, on va parler de courbature. C'est un mot nouveau. Avec les ouvriers, au fond, c'est une question d'énergie. Hein. À ce moment-là, la fatigue, et donc on va parler de dépérissement.
Oui, c'est ça. Alors, ce qui est très, très important, c'est de voir que les mots prennent de l'importance parce qu'ils désignent des symptômes, et le fait qu'ils les désignent rend ces symptômes encore plus présents et aigus. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que la façon dont on interprète est liée aussi à la manière dont on se représente le corps. Donc lorsque le corps est fait de liquide, je ne veux pas y revenir, mais je l'ai dit, il y a une représentation type avec des réactions qui renvoient au fait de recourir au liquide, essayer d'immerger les gens, rafraîchir, ça c'est le grand mot, vous voyez, rafraîchir. Et puis au 18e, lorsque ce sont les nerfs, il faut retrouver l'excitation, il faut retrouver la stimulation, il faut retrouver le fait que les chairs se resserrent, puissent se tendre, etc. Alors qu'au 19e siècle, la représentation a complètement changé. Le corps devient un lieu énergétique. C'est celui qui consomme de l'oxygène, qui brûle, et en brûlant, provoque de l'énergie. D'où, tout change. Il faut regarder les poitrines, parce que c'est dans la poitrine que se déroule finalement la combustion. C'est la machine à vapeur, si vous voulez. Il faut regarder aussi les calories. Il faut regarder quelles sont les nourritures qui sont susceptibles de donner le plus de chaleur possible. Donc tout change. Et apparaît finalement cette notion que je trouve très neuve et qui est très importante, qui est celle de rendement. lorsqu'on que rend ce que l'on met dans la machine ? Qu'est-ce que l'on va obtenir et comment obtenir le mieux ?
Mais alors, au XXIe siècle, aujourd'hui, la fatigue porte des noms nouveaux. On parle de stress, de pénibilité, de burn-out, de charge mentale. Au fond, pour parler de la fatigue, on emploie le langage du numérique, hein, dites-vous. On parle de déconnexion, on conseille de privilégier ses messages internes ou de lâcher prise.
Tout à fait. Moi, je pense qu'il s'est produit deux choses qui ont profondément changé la vision et le rapport à la fatigue aujourd'hui. La première, c'est en termes d'attention, c'est le versant psychologique qui a grandi en importance, le versant de la conscience, la complexité de l'intériorité, comment les individus se pensent eux-mêmes, comment y a-t-il des perturbations chez eux, etc. Et ça, c'est très important, parce que finalement, la fatigue psychique prend une présence qui n'avait pas du tout cette force auparavant. Et la deuxième chose, je reviens à ce que vous disiez, ce sont les représentations du corps qui ont changé. Le corps n'est plus simplement un lieu énergétique, c'est aussi un lieu de communication. C'est un lieu dont la métaphore est celle de l'ordinateur. Et donc, la communication est fondamentale. Et qu'est-ce que c'est que la fatigue ? C'est une façon de se déconnecter, de n'être plus en prise, de ne plus pouvoir avoir quelque chose qui fluidifie, voyez, l'information, par exemple. Donc, on a des fatigues liées à l'information. La charge mentale, c'est exactement ça. C'est le fait de ne plus pouvoir répondre aux informations auxquelles vous êtes confronté. Et je pense que c'est très important de travailler sur ces représentations du corps qui changent avec le temps, parce qu'elles renvoient finalement, non seulement à de nouvelles explications, mais à de nouvelles pratiques.
Mais en même temps, il y a des mots qu'on n'utilise plus. Est-ce qu'on en a perdu la sensation ? La langueur, par exemple. On parlait beaucoup de langueur.
Je parle beaucoup de langueur parce que c'est un mot. Oui, vous avez tout à fait raison. Parce que c'est un mot très important, en particulier au XVIIe. Parce qu'il se passe autre chose dans cette histoire. C'est que l'attention va porter sur des faits qui sont de plus en plus ténus. De même que l'attention va porter sur des faits qui sont de plus en plus graves. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que le spectre de la fatigue va s'étendre. Et que l'origine va devenir de plus en plus précoce. Et au XVIIe, le mot de langueur est précisément un témoin de cela. C'est-à-dire une sorte de fléchissement, qui est une sorte de fatigue mal nommée, de sensations plus ou moins sourdes, opaques, mais c'est complètement neuf. Et de même, l'épuisement au XVIIIe, c'est l'autre bout de la chaîne, c'est l'extrême. Voyez, donc y a, dans cette histoire, il y a un travail à faire sur comment le spectre de la fatigue auquel nous sommes confrontés prend de plus en plus d'espace et d'importance. Et du coup, les mots sont extrêmement importants, parce que le mot stress, le mot burn-out sont des mots qui renvoient à de la psychologie. Et j'ajouterais que si on prend en compte la psychologie, ce qui me paraît personnellement absolument fondamental, cette psychologie, elle a deux versants. Elle a un premier versant qui est celui de l'affirmation de soi, de plus en plus ouverte, une sorte d'hypertrophie du moi. Et deuxièmement, à cause précisément de cela, elle a le fait que l'on supporte de moins en moins d'être menacé, d'être dominé, d'être soumis à quelque chose qui est l'ordre du harcèlement. Donc il y a ce double phénomène qui crée de nouvelles fatigues, précisément.
Merci Georges Bigarello. Histoire de la fatigue du Moyen-Âge à nos jours, ça vient de paraître au Seuil.
Europe 1.
Après le flash de 10h, on retrouve Olivier Duhamel et Catherine Ney dans Mediapolis. Quel est le programme aujourd'hui, Olivier ?
Eh bien, nous recevons un homme qu'il est particulièrement utile et même nécessaire d'écouter par les temps qui courent, Monsieur Étienne Klein. Anti-complotiste, anti-fake news, physicien, philosophe des sciences et vulgarisateur.
Merci Olivier, à tout de suite. Nous, on se retrouve demain à 9h. Le philosophe Marcel Gaucher nous expliquera en direct pourquoi la revue Le Débat, dont il est le rédacteur en chef, décide de se saborder. Bon week-end sur Europe 1.